VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 3 novembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
République démocratique du Congo, une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU attendue ce mois-ci dans le pays.
Au Congo-Brazzaville, débat autour du projet de loi créant le statut de chef de l'opposition.
En Afrique du Sud, le président Zuma et des ministres mis en cause dans un rapport officiel sur de possibles crimes de corruption au sommet de l'État.
Le Kenya retire ses troupes de la mission de l'ONU au Soudan du Sud.
Aboubakar al-Baghdadi, chef du groupe État islamique, exhorte ses troupes à résister à l'avancée de l'armée irakienne à Mossoul.
Et ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier la page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
République démocratique du Congo, une délégation du Conseil de sécurité se rendra bientôt dans le pays pour réclamer une date pour la présidentielle. Des détails avec Eddy Issango.
La délégation onusienne se rendra du 10 au 14 novembre à Kinshasa, Goma et Beni pour rencontrer le président Joseph Kabila, des responsables de l'opposition et de la société civile. Les Sénégalais Fode Seck, président du Conseil de sécurité pour novembre, souligne que la RDC est dans un contexte de plus tendu et que le Conseil a jugé utile de se rendre sur place avec un message de dialogue intercongolais. L'Angolais Ismaël Gaspard Martens estime pour sa part que le président Kabila doit terminer son mandat et laisser quelqu'un d'autre être élu. La transition doit s'effectuer de manière ordonnée pour ne pas créer un vide déstabilisant, avertit l'ambassadeur angolais aux Nations Unies. De son côté, les Français François Delattre est d'avis que l'élection doit se tenir dès que possible et dans le plein respect de la Constitution. Le mandat de M. Kabila, au pouvoir depuis 2001, arrive à son terme le 20 décembre et aucune date officielle n'est avancée pour la tenue des nouvelles élections.
Le président sud-africain Jacob Zuma et des ministres ont été mis en cause hier dans un rapport officiel qui dénonce de possibles crimes de corruption au sommet de l'État. Un problème de plus pour le président sud-africain. Le point avec Nani Talani.
Le rapport de Thuli Mondosela, ancienne médiatrice de la République, a finalement été publié hier sur ordre de la justice. Il pointe de lourds soupçons de collusion entre l'exécutif et la riche famille Gupta d'origine indienne. Il dénonce par exemple les 7 visites de David Van Rooyen, alors député de l'ANC, à la résidence des Gupta à Johannesburg, y compris la veille de sa nomination surprise au ministère des Finances en décembre 2015. Le rapport revient également sur les affirmations du vice-ministre des Finances, Ntsebisi Jonas, qui a assuré en mars que les frères Gupta lui avaient proposé de prendre le portefeuille du Trésor. La médiatrice s'étonne que l'exécutif n'ait jamais mené d'enquête sur ces affirmations. D'autres ministres sont épinglés comme Mossé Benzi Zouane, titulaire du portefeuille des mines. Il avait effectué fin 2015 un voyage privé en Suisse aux côtés des Gupta qui négociaient à l'époque le rachat d'une mine de charbon en Afrique du Sud. Ce déplacement est qualifié de contraire aux règles d'éthique. Pour conclure, l'ancienne médiatrice recommande au parquet et à la police d'ouvrir des enquêtes.
Le Kenya retire ses troupes de la mission de l'ONU au Soudan du Sud. C'est suite au limogeage du commandant kényan des casques bleus qui ont été accablés par un rapport onusien sur les violences de juillet à Djouba. Morgane Guiriec.
Le ministère kényan des Affaires étrangères estime que le déploiement des troupes kényanes au Soudan du Sud n'est plus tenable et même constitue une menace pour leur propre sécurité et leur bien-être. Le contingent kényan, l'un des plus importants au Soudan du Sud, va donc quitter le pays. Il compte environ 1000 soldats sur les 13 500 casques bleus déployés dans la plus jeune nation du continent. Le général néerlandais à la retraite, Patrick Kamert, a souligné de graves lacunes des casques bleus qui ont réagi de manière chaotique et inefficace face aux violences de juillet à Djouba. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est déclaré profondément affligé par les conclusions de ce rapport et le commandant de la force onusienne a été immédiatement limogé. Du 8 au 11 juillet, des combats meurtriers avaient opposé les troupes du président Salva Kiir à celles de l'ex-chef rebelle Riek Machar, alors vice-président du pays.
En France, deux jours après le démantèlement total de la jungle, le gouvernement a procédé dans le calme, hier, à l'évacuation de l'ensemble des 1616 mineurs isolés encore présents. Ils ont été évacués vers des centres d'accueil disséminés dans le pays avant le départ aujourd'hui des femmes et de leurs enfants. Nous reviendrons sur Calais dans la seconde partie de cette édition.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef du groupe État islamique Abu Bakr al-Baghdadi a appelé ses troupes à résister à l'avancée de l'armée irakienne à Mossoul, où le leader djihadiste avait proclamé un califat en 2014. « Ne vous repliez pas », assène une voix, présentée comme celle de Baghdadi, dans un message audio diffusé jeudi par Al-Furqan, affilié à l'organisation terroriste. Tenir ses positions dans l'honneur est mille fois plus aisé que de se replier dans la honte, explique encore Baghdadi dans ce message, le premier depuis plus d'un an.
Les locaux d'Amnesty International à Moscou, occupés depuis 20 ans, ont été fermés hier sans la moindre explication. Les précisions de John Linden.
Amnesty International dit n'avoir reçu aucune notification et les scellés de ses bureaux à Moscou ont été placés en l'absence de ses employés. L'organisation a diffusé une photo des scellés sur lesquels il est écrit que les locaux sont la propriété de la Fédération de Russie et qu'il fallait s'adresser à la ville de Moscou pour obtenir des informations. Ce bureau était le seul d'Amnesty en Russie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a souligné qu'il n'avait absolument aucune information sur le sujet, ajoutant avoir entendu parler de cette affaire pour la première fois. Les ONG sont soumises à un contrôle de plus en plus strict des autorités russes. Depuis le mois de mai, une nouvelle loi permet de fermer sans décision de justice une organisation étrangère menaçant la sécurité nationale ou les fondements constitutionnels de la Russie et aussi de bloquer les comptes bancaires des ONG incriminées.
Ici, aux États-Unis, une enquête a été ouverte suite à l'incendie criminel d'une église noire américaine historique dans le Mississippi. Sur un de ses murs, un slogan en faveur de Donald Trump, le candidat républicain à la présidentielle du 8 novembre. La présidente d'une association locale pour les droits civiques a déploré que la rhétorique toxique de ce cycle électoral continue de faire planer un nuage sombre à l'approche de l'élection.
Par ailleurs, le camp Trump a rejeté hier le soutien du Crusader, un journal du mouvement suprémaciste blanc Ku Klux Klan, au candidat républicain. Son équipe a réagi en affirmant « rejeter la haine sous toutes ses formes ». Elle a ajouté que cette publication est répugnante et ses idées ne représentent pas les dizaines de millions d'Américains qui se rassemblent derrière son candidat. Nous reviendrons sur la présidentielle dans la seconde partie de cette édition.
Au Venezuela, l'opposition a débuté hier une trêve avec le président Nicolas Maduro pour permettre aux négociations de prospérer après des mois d'escalade. Il s'agit là d'un pari risqué qui pourrait la couper de sa base et accentuer ses divisions. À la surprise générale, les anti-chavistes, qui veulent pourtant toujours faire partir M. Maduro, ont décidé mardi soir de suspendre le vote de défiance prévu au Parlement contre le président socialiste, ainsi que la marche sur la présidence. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Écho.
Les sénateurs nigérians ont rejeté le plan budgétaire du président Muhammadu Buhari visant à emprunter 30 milliards de dollars sur les marchés financiers pour relancer l'économie du pays. Le Sénat a rejeté ce plan lors d'une session sans débat, infligeant un revers au président nigérian. Le Forum d'affaires Turquie-Afrique a ouvert ses portes hier à Ankara, la capitale turque, sur un ton très politique. Les autorités turques ont clairement exprimé leur volonté d'établir des relations de confiance avec le continent africain, tout en tournant résolument le dos à l'Europe et aux États-Unis. Les dirigeants des groupes pétroliers réunis en Afrique du Sud pour la conférence Africa Oil Week s'accordent à dire que le plus gros de la tempête est derrière, 2 ans après le début de la chute drastique des cours en juillet 2014. Ces professionnels songent à nouveau à démarrer des projets. Total espère prendre une décision d'investigation sur son projet ougandais d'ici la fin 2017. Exxon, qui tire 21% de sa production du continent africain, annonce la reprise de l'exploration dans une dizaine de pays, dont la Côte d'Ivoire. Le secteur privé aux États-Unis a créé 147 000 emplois en octobre, un chiffre inférieur aux attentes et qui est le plus bas depuis le mois de mai, selon une enquête publiée conjointement hier par ADP et Moody's Analytics. Il était prévu 165 000 créations d'emplois, avec des prévisions variant de 130 000 à 190 000 créations.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Suite du tour du Faso en cyclisme.
La sixième étape entre Pas et Bobo Dioulasso, les Burkinabés l'avaient promis. Ils l'ont fait, ils ont accompli leur mission, récupérer le maillot jaune qui se trouve désormais sur les épaules d'Aruna Ilboudo qui a délogé l'Érythréen Solomo Zemenfes de la première place du classement général. L'étape, quant à elle, a été remportée par l'Érythréen Haïlé Daouit. Et puis avec vous Idrissa, la suite de la quatrième journée de la Ligue des Champions en Europe.
Dans le groupe A, Monaco a disposé du CSKA Moscou 3 buts à 0. Tottenham a été battu par Bayer Leverkusen 1 à 0. Le Real tient la Legia de Varsovie en échec sur son terrain 3 buts partout. Match nul entre Leicester et Copenhague 0 partout. Les Portugais de Porto s'imposent sur le plus petit score face à Bruges 1 à 0. Juventus de Turin partage la poire avec Lyon 1 partout. FC Séville dynamite le Dynamo de Zagreb 4 à 0. Et maintenant, jeudi, place à la quatrième journée de l'Europa League.
Schalke 04, le Zénith Saint-Pétersbourg, l'Ajax d'Amsterdam et le Shakhtar Donetsk sont en mesure de se qualifier pour les 16e de finale de la compétition. Ce ne sont pas les seules équipes qui vont intéresser la planète football dans le groupe A. Manchester United, qui se déplace à Istanbul sur la pelouse de Fenerbahçe, focalisera l'attention en raison des critiques qui pleuvent toujours sur José Mourinho et Zlatan Ibrahimovic. Dans le groupe I, Nice mettra encore en lumière Mario Balotelli. Enfin, dans le groupe K, Southampton du français Claude Puel accueille l'Inter de Milan en pleine crise qui vient de se séparer de son entraîneur Frank de Boer. Enfin NBA, avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dans le championnat de basket nord-américain.
Toronto 113, Washington 103, Philadelphia 93, Charlotte 109, Détroit 101, Brooklyn Nets 109, Houston 118, New York Knicks 99, LA Lakers 123, Atlanta 116, New Orleans 83, Memphis 89, Chicago 100, Boston 107, Dallas 81, Utah 97.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-8540. Je répète, 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Yeah. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydou Dia à votre compagnie. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la direction générale de la BGFI, banque, a démenti les révélations du journal belge Le Soir sur l'opacité de la gestion des fonds des élections ou des allégations de malversation financière. Dans une déclaration faite mardi à Kinshasa, le directeur adjoint de cette banque, Abdelkader Diop, a précisé entre autres que le président Joseph Kabila n'est même pas un client de sa banque. C'était en réaction à ces révélations fondées sur des documents transmis au journal par Jean-Jacques Lumumba, cadre démissionnaire de la banque. De son côté, le président de la CENI dénonce l'exploitation qu'ont fait des retraits de fonds alloués pour les élections. Compte rendu de Cyril Milandou de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Selon le directeur adjoint de la FGFI Bank, Joseph Kabila n'est pas client et encore moins actionnaire de cette institution bancaire, Abdelkader Diop.
Monsieur le président de la République n'est pas client de BGFI Bank. Concernant le tour de table du capital, je sais simplement qu'il y a des privés congolais qui détiennent 40%. Moi, je suis un salarié de la banque. Je ne suis pas un actionnaire. Donc, je ne participe pas à l'Assemblée générale de la banque pour savoir qui vient et qui ne vient pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai le nom des actionnaires. Il n'y a pas de Kabila. Il n'y a pas de Kabila. Il n'y a pas de Kabila et ça, c'est vérifiable.
Pour sa part, le président de la CENI a confirmé que la centrale électorale a pris une ligne de crédit auprès de cette banque. Corneille Nanga parle plutôt des transactions normales.
Oui, nous avons pris une ligne de crédit à la BGFI Bank pour nous faciliter le paiement des mises étrangères, des non-fournisseurs à l'étranger. Le financement du gouvernement s'est fait en franc. Ça, c'est une procédure légale, et normale, et vérifiable et traçable. Deuxième question, l'article avance que non, il y a eu des retraits des fonds qui se font par la CENI. Effectivement, oui, ce sont des transactions légales. Évidemment, quand nous retirons les fonds, quand nous allons payer des milliers d'agents qui travaillent pour la CENI en milieu rural dans plusieurs dans tous les pays, nous payons en cash. Il n'y a pas de banque là-bas. Il est normal que des transactions se font. Effectivement, nous confirmons qu'il y a eu des transactions et ils sont faits par des personnes qualifiées pour les faire. Ces fonds sont traçables dès lors qu'ils sont ceux qui sont destinés à la prise en charge de l'opération de la révision du fichier électoral. Entre-temps, l'interprétation qu'ils en font, là, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est de l'intoxication. Dire que les fonds retirés, c'est ceux qui ont justifié qu'on ne tienne pas l'élection, c'est quand même à faire dormir.
Abdelkader Diop regrette les allégations de blanchiment d'argent.
Simplement, quand on parle de blanchiment, il s'agit d'argent sale venu d'autres personnes et qui l'injecte dans le circuit financier. Nous ne sommes pas dans ce cas. La CENI reçoit son argent du gouvernement. Et on dit même que les retraits effectués par la CENI sont des opérations de blanchiment. Là, j'avoue, je ne comprends rien parce que le blanchiment se fait à l'entrée de l'argent sale dans le circuit financier, mais pas à la sortie. Moi, je suis une porte de sortie. Une fois que ce n'est pas rentré par mon canal dans le circuit financier, on ne peut pas me reprocher d'être coupable ou que j'ai participé à une opération de blanchiment.
La direction générale de la banque se résout de porter plainte contre Jean-Jacques Lumumba et contre celui qu'elle qualifie de son sociétaire, le journal belge Le Soir. Kinshasa, Cyril Milandou de Top Congo FM pour la VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Congo-Brazzaville, le gouvernement a adopté un projet de loi qui crée le statut de chef de l'opposition. Les autorités veulent que ce soit celui dont le parti a le plus d'élus après la formation au pouvoir. Si certains opposants comme Pascal Satima Biala et Guy Brice Parfait Kolela saluent cette initiative, d'autres y voient plutôt une manœuvre du gouvernement pour contrôler les opposants. De Brazzaville, précision de notre correspondant Nguela Ngoussou.
Selon la future loi, le chef de l'opposition sera celui dont le parti dispose le plus de lui au Parlement. Pascal Sassima Biala, le premier secrétaire de l'UPADS, première formation de l'opposition représentée à l'Assemblée nationale, se frotte plutôt les mains.
C'est nouveau dans notre législation.
Et tout le monde nous regarde, Colila, c'est moi. Non, la loi ne dispose que pour l'avenir. Ce n'est pas les situations actuelles qui sont acquises, où moi j'ai un nombre important de députés, relativement important par rapport au MCDDI, mais ce n'est pas ça. Le calcul ne sera pas fait sur la base de la situation actuelle, mais des prochaines élections législatives qui auront lieu en 2017. C'est-à-dire qu'après le parti majoritaire, le parti qui viendra après, ça peut être l'UPADES, et je souhaite, moi je veux que nous soyons le premier. Pourquoi voulez-vous que je sois moi de l'opposition? Moi, mon objectif est que je sois le premier.
La frange de l'opposition, qui n'est pas représentée dans les institutions, craint d'être emportée par cette nouvelle loi. C'est pourquoi elle insiste sur la pluralité de l'opposition. Pour Clément Mirassa, seule l'organisation prochaine du scrutin législatif sans contestation peut amener à la désignation consensuelle du chef de file de l'opposition.
Tout ça a un problème de fond. C'est l'organisation dans ce pays d'élections libres, démocratiques et transparentes. Élections qui ne seraient contestées par personne et qui devraient être organisées par une commission nationale électorale véritablement indépendante. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui fait que on a le sentiment que c'est le pouvoir qui s'organise pour avoir y compris la mainmise sur la prétendue opposition. Il y a ceux qui ont pris acte, il y a ceux qui ont reconnu, il y a ceux qui ne reconnaissent pas. Si je prends déjà les 5 candidats, vous connaissez bien les points de vue des uns des autres. Donc, à mon avis, c'est une question qui doit être regardée calmement, que le chef de l'opposition soit un véritable opposant.
Avec un regard de recul, l'analyste politique Timothée Makita estime que le projet est bon, quitte au futur chef de l'opposition de rassembler.
Je pense qu'il faut être positif et se dire, ce personnage, une femme ou un homme qui sera choisi pour représenter l'opposition avec toutes les prérogatives qui vont avec ce statut, doit savoir qu'il est là pour représenter toute l'opposition dans sa diversité, dans son caractère pluriel. Donc si le gouvernement légifère, il revient à l'opposition de s'organiser de telle manière qu'aucune frange de cette opposition ne soit laissée au bord de la route.
Si Sassima Biala et Guy Brice Parfait-Kolela rapprochent leur point de vue sur la question, d'autres leaders de l'opposition voient là une nouvelle manœuvre du pouvoir visant à les contrôler. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Les derniers migrants mineurs restés à Calais ont été transférés hier vers d'autres sites d'accueil provisoires en France. Il s'agit de la dernière étape du démantèlement de l'immense camp de la jungle. Ces jeunes migrants devraient savoir dans les prochaines semaines si leur dossier est accepté par les autorités britanniques. Pour Franck Esnay, le chef de mission Calais de Médecins sans frontières, la situation n'est pas résolue.
Une grande partie des mineurs ont été emmenés vers des centres d'accueil et d'orientation pour mineurs. Pas tous encore aujourd'hui, donc probablement les derniers partiront demain.
Le problème des mineurs a été récurrent, et notamment entre la France et la Grande-Bretagne.
Oui, absolument. Il y a aujourd'hui seulement 2 moyens légaux pour les mineurs de façon à passer en Grande-Bretagne. C'est la réunification familiale et le Dubs Amendment pour les très jeunes garçons et les jeunes filles qui expriment le souhait d'être accueillis en Grande-Bretagne. Il se trouve que sans la pression médiatique et sans la pression des associations, la Grande-Bretagne et la France, pour le moment, allaient très lentement dans ces processus. Ça fait plusieurs mois que des centaines jusqu'à 1000 mineurs étaient en attente dans la jungle de Calais, en attente d'hébergement, en attente de protection. Donc on peut dire effectivement que les autorités ont traîné énormément, autant côté français que côté britannique.
Et est-ce qu'on sait pourquoi il y a eu tant de problèmes? Parce que la gestion des mineurs est plus compliquée?
Non, on trouve les mêmes problèmes avec la gestion des adultes. Je pense que l'État français n'a pas pris la mesure de la situation, s'est rendu compte très tard que la situation était alarmante. Et l'État français a montré une vraie politique inhospitalière par rapport à la question des réfugiés et des personnes exilées en France. Et côté britannique, c'est surtout le blocage de la frontière et la possibilité de se rendre de manière légale en Grande-Bretagne pour y demander l'asile. Donc autant côté français que côté anglais, on était dans une situation où les pouvoirs publics ne voulaient pas traiter la situation.
Alors le président français a martelé isolée. Hein. Il n'y aura pas de réinstallation à Calais. Il a parlé même d'une zone sécurisée. Est-ce que vous confirmez ça ou est-ce que vous savez déjà qu'il y a un certain nombre de migrants qui se sont cachés aux alentours et qui continuent d'espérer de pouvoir rejoindre l'Angleterre ?
Oui, absolument. L'ensemble des associations locales et présentes à Calais depuis longtemps savent très bien qu'il y a encore des gens. On pense qu'au moins 2000 personnes ont fui le démantèlement de la jungle pour aller se cacher ailleurs à la veille de l'hiver. Donc on sait que effectivement plusieurs milliers de personnes vont vivre dans des conditions absolument indignes pendant l'hiver. D'autres sont partis sur Paris, d'autres sont partis en Belgique. On sait que des mineurs ont déjà fui les CAO, les centres d'accueil et d'orientation pour mineurs, les CAOMI dans lesquels ils étaient. Donc il y a déjà des gens qui reviennent à Calais. Le problème n'est pas réglé parce qu'on décide qu'il est réglé. Les gens ne vont pas disparaître et ce projet de vie en Grande-Bretagne reste un projet présent très fortement chez les exilés qui arrivent en France.
Franck Esnay, chef de mission à Calais de Médecins sans frontières, joint hier par Claire Morin-Gibourg. Présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump exhorte les Américains qui ont déjà voté pour Hillary Clinton à changer de vote. Pour sa part, le président Barack Obama, qui bat campagne pour la démocrate Hillary Clinton, a appelé les Africains américains à aller aux urnes pour voter par anticipation. Le point, Timothée Donangmaï.
En campagne en Floride, un État dont il a absolument besoin pour remporter la course à la Maison-Blanche, le candidat républicain Donald Trump a demandé à ses partisans de ne pas relâcher l'effort. Tout en assurant que les républicains sont très en avance dans cet État du Sud-Est, Trump les a encouragés à faire comme si cela n'était pas le cas. Dans le même temps, il a suggéré à ceux des Américains qui auraient le remords après avoir voté par anticipation pour Mme Clinton d'aller changer leur bulletin de vote. Certains États, comme le Wisconsin, le Minnesota, la Pennsylvanie et le Michigan, permettent un tel changement, mais le délai pour le faire est en train d'expirer. Selon les responsables électoraux, il y a peu de chances que Trump soit écouté dans la mesure où très peu d'électeurs changent leur vote.
Pour sa part, Timothée, le président Barack Obama défend la candidate démocrate Hillary Clinton face au récent développement dans la controverse concernant ses emails.
Le chef de l'exécutif a assuré que Mme Clinton a commis une erreur honnête dans l'affaire des emails, laissant entendre que les électeurs ne doivent pas se laisser influencer par les révélations selon lesquelles le FBI enquête à nouveau sur ses emails à quelques jours du scrutin. Le président Obama, qui commentait pour la première fois cette affaire, s'est gardé de critiquer le directeur du FBI, James Comey. Il a tout de même souligné que lorsqu'une enquête est en cours, on n'agit pas sur les bases d'insinuations, d'informations incomplètes ou de fuites, mais sur la base des décisions concrètes. Il faut dire que M. Obama a adopté une démarche prudente ici, ne voulant surtout pas donner l'impression d'une ingérence de l'exécutif dans le processus judiciaire. Sur un terrain beaucoup plus familier, le chef de l'exécutif américain a averti que le vote par anticipation est en recul chez les Africains américains, une situation qui pourrait nuire aux efforts de Mme Clinton pour lui succéder, a-t-il souligné tout en se félicitant de l'engouement noté chez les électeurs hispaniques. Un groupe d'officiers supérieurs américains à la retraite, dans une lettre collective, a appelé Donald Trump à publier sa feuille d'impôt exprimant ses préoccupations concernant d'éventuels liens entre le candidat républicain et la Russie.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Le point sur la dernière ligne droite de la présidentielle américaine. La relance de l'enquête sur les emails d'Hillary Clinton et les révélations de propos obscènes par Donald Trump risquent-elles d'influer sur le scrutin du 8 novembre? Les sondages reflètent-ils la réalité du terrain? Quels sont, d'après vous, les enjeux de cette élection? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.